Alors, on va continuer et on va, dans une deuxième partie maintenant, vous parler de ce qu'on fait pour les traiter, parce que ça peut être intéressant. Et puis, enfin, on vous montrera une certaine innovation technologique qu'on fait, nous, et qu'on fait en Europe dans quelques centres, très peu. Alors, la première chose, c'est le traitement chirurgical, qui consiste à exclure l'anévrisme, à rétablir la circulation. Et ce traitement a été mis au point par un chirurgien américain qui s'appelle toujours Michael Dobbyaky, qui vit à Houston, qui a été formé en partie en France, puis comme il n'était pas français, il a immigré aux États-Unis, où il a développé une carrière absolument extraordinaire. Il a 99 ans et il est absolument extraordinaire. Il est remarquable de noter que là, il tient un cœur artificiel qu'il a aussi mis au point. C'est celui aussi qui a décrit la chirurgie carotidienne. C'est vraiment un grand pionnier. Et monsieur de Debakey a été opéré il y a un an et demi d'un anévrisme de l'aorte thoracique. Et ça vaut le coup de raconter un peu ce qui s'est passé, puisque quand il est arrivé, donc il avait 99 ans, il est arrivé à l'hôpital et il n'était pas très bien, évidemment, et il croyait qu'il allait mourir. Et puis finalement, c'était un anévrisme qui a évolué en quelques heures, qui a laissé le temps de la réflexion à tout le monde. Il était contre-indiqué par les anesthésistes de son hôpital, qui trouvaient qu'il était trop vieux, qu'il ne passerait pas le cap, qu'il fallait rien faire. Et puis, donc, les chirurgiens sont réunis parce qu'ils étaient quand même inquiets. Et puis finalement, dans ce staff, dans cette réunion de service, qui était un peu houleuse, je pense, la femme de Michael Debakey est arrivée. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut l'opérer, c'est tout. Et c'est le chef de clinique qui était de garde qui l'a opéré et qui l'a sorti, parce que ce sont des gens qui savent travailler. Donc, il a quand même eu une convalescence assez longue. Les 2 derniers mois, il les a passés dans une chaise à roulettes parce qu'il n'était pas encore assez fort pour marcher dans tous les hôpitaux, dans tous les couloirs de l'hôpital de Houston, à casser les pieds aux gens. Et finalement, il a pu rentrer chez lui. C'est à lui qu'on doit en fait la description du traitement chirurgical de ces anévrismes. Alors, le principe est extrêmement simple. Vas-y. On fait ça par une incision médiane et on va, je passe sur les détails, on va vous rencontrer donc l'anévrisme qui se trouve dans l'abdomen, diapositive. Ensuite, cet anévrisme, dans 90% des cas, même plus, il s'arrête juste sous les artères rénales qu'on voit ici. Donc vous avez ce qu'on appelle un collet, c'est la limite, si vous voulez, la limite supérieure de cet anévrisme. Ensuite, on clampe, on interrompt la circulation dans l'aorte qui contient l'anévrisme. On enlève le thrombus, le caillot que vous avez vu sur le scanner qui se trouve à l'intérieur. Oui. Et puis, on a l'artère lombaire qui se trouve au fond. On les ferme par en dedans. Et c'est l'astuce de monsieur Debakey, c'est d'avoir. On n'enlève pas l'anévrisme. Hein. On le traite par l'intérieur. Parce que, comme l'anévrisme, il colle à tout, à la veine cave, etc. Si on l'enlève, ça devient une opération infernale. On n'a pas besoin de l'enlever. On ferme par en dedans. Et on coud juste à la limite entre l'aorte saine et puis la dilatation, cette prothèse en Dacron. On vous a apporté un exemplaire, on vous montrera tout à l'heure, on va circuler, qui est un polyester, hein, et on coud, hein, c'est fait main, cette prothèse, diapositive. Ensuite, on déclampe, on teste l'anastomose supérieure. On fait très attention parce que si jamais vous avez une fuite en arrière et vous avez déjà fait l'anastomose inférieure, vous êtes très très mal pour corriger. Donc on teste en haut, on regarde, quand on a un petit trou en arrière, on remet. Un point, et puis après on fait l'anastomose en bas, on déclampe, et puis ensuite on ferme la coque de l'anévrisme autour de la prothèse pour la séparer du tube digestif. Diapositive. Alors là, chez quelques malades, il y a une artère mésentérique inférieure qui est perméable, qui est réimplantée, et puis chez quelques malades, l'anévrisme s'étend beaucoup plus sur les iliaques, et à ce moment-là, on fait une prothèse qui est bifurquée. C'est ce qu'on appelle une culotte, hein, ça passe, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Voilà. Quelquefois aussi, il y a une maladie oblitérante qui s'associe à la maladie anévrismale, mais c'est la même maladie, c'est l'athérome, hein, les deux. Et vous voyez, on est obligé de faire des pontages assez compliqués pour à la fois exclure l'anévrisme et revasculariser les membres inférieurs. Bon, ça, c'est la vie de tous les jours, hein, diapositive. Quelquefois, on est obligé d'aller beaucoup plus haut et de faire une voie rétropéritonéale, peu importe. Ça, c'est la chirurgie. Diapo. Alors. Comme l'a dit le docteur Yavid, c'est there is no free lunch. Hein. Quand on fait une intervention aussi importante que ça, on a des complications et on a à peu près 4% de mortalité opératoire à froid, hein, qui correspond à peu près à ce qu'on a dans les pontages coronaires. C'est la même population de malades. Les décès ne sont pas dus à la technique, à un défaut de technique sur l'anévrisme en général, mais le 90% des décès sont dus à des complications coronaires qui surviennent après la chirurgie. D'où l'importance du bilan et d'où l'importance de la correction des facteurs de risque. Quelquefois, ces malades, quand on diagnostique l'anévrisme, quand il n'est pas compliqué, on a le temps, il y a un bilan cardiaque complet qui est fait, et à ce moment-là, quelquefois, les malades ont d'abord un stent dans les coronaires ou un pontage coronaire avant qu'on fasse l'anévrisme. Ça, c'est extrêmement important pour baisser cette mortalité. Il y a une morbidité, c'est les complications respiratoires qui prolongent un peu l'hospitalisation, mais qui n'entraînent pas le décès du malade. Complications respiratoires, Jérôme Coux vous dira un mot là-dessus, parce qu'avec une technique qu'il a développée, on tend à diminuer les complications respiratoires. Et vous voyez qu'il n'y a pas de... Il y a vraiment une différence extrêmement importante entre le rompu et le non rompu, où d'un côté, vraiment, on a un taux de complications qui est tout à fait acceptable et de l'autre, tout à fait inacceptable. Diapo. Alors, une fois que les malades sont opérés, comment ils vont? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que vraiment on leur a rendu service? Eh bien, ils vont bien. Hein. Ils reprennent au bout d'un à deux mois leur activité normale. Comme ils ont une cicatrice, ils ont quelquefois quelques petites douleurs au début, puis ça se calme. Et ils ont une surveillance qui est relativement simple en dehors de la surveillance des facteurs de risque qu'ils peuvent avoir par ailleurs. C'est un échodoppler à un mois qui est systématiquement fait, puis un angioscanner. On fait un scanner tous les 5 ans. Et puis évidemment, comme l'a dit le Dr Gavi, le traitement des facteurs de risque cardiovasculaires, évidemment. Mais si vous voulez, c'est pas, vous n'êtes pas diminué. Vous reprenez. J'ai même des gens qui ont repris la course, et des gens jeunes qui ont ça, c'est rare, mais ça arrive, hein, qui a repris le marathon, si vous voulez. Donc même des efforts extrêmement soutenus, on peut les faire. Hein. Diapo. Alors, là-dessus arrive une deuxième technique que nous, on a commencé à expérimenter au CHU dans le cadre d'une Loyurier, donc études expérimentales, qui sont les endoprothèses. Les endoprothèses représentent incontestablement une innovation technologique qui s'adresse soit aux anévrismes de leur thoracique, mais on va faire simple, on ne va pas trop en parler, mais je vais vous montrer une vidéo, soit aux anévrismes de leur aorte abdominale. Les résultats de ces endoprothèses qu'on met vraiment que depuis une dizaine d'années ne sont pas connus à long terme, alors que la chirurgie donne de très bons résultats à 20-30 ans. Si vous voulez. Bon, c'est comme toute innovation, il faut attendre pour avoir du recul. Diapo. Vas-y, clique encore. Voilà. Donc voici, je vais vous montrer un film. Alors c'est comme, c'est Disney. Hein. Donc c'est à propos d'un année de la mise de ce traitement endovasculaire d'un anévrisme de l'aorte thoracique. Alors voici l'anévrisme, vous l'avez reconnu, une dilatation de l'aorte. Vous avez ici la crosse de l'aorte, vous êtes dans l'aorte thoracique, il y a du thrombus, et on va monter par voie fémorale. Donc on fait simplement un abord de la fémorale, il n'y a pas de grande cicatrice, et on ouvre une endoprothèse qui va couvrir l'anévrisme. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà en plus long. Hein. Et il est certain que vous excluez l'anévrisme, et vous faites c'est le même principe que traitement chirurgical, à part qu'il n'y a pas d'incision. Et voici donc ce que ça donne par en dedans, si vous voulez. Vous avez l'endoprothèse qui couvre complètement l'aorte, qui exclut l'anévrisme et qui permet de revasculariser les membres inférieurs, enfin l'aorte abdominale, et en même temps d'éviter la rupture. Alors ensuite, on passe dans cette endoprothèse un ballon qui est à trois petits ballons, en fait, qu'on tourne pour appliquer la paroi de l'endoprothèse sur l'aorte au-dessus et au-dessous pour éviter qu'il y ait des fuites qui passent, des endofuites en haut et en bas. Donc ça, c'est très très chouette. Évidemment, c'est très intéressant, surtout pour les anévrismes de l'aorte thoracique, parce que ça permet de... Vas-y, passe. Voilà. Alors voici en pratique, pour les anévrismes de l'aorte abdominale, pas d'incision, deux cicatrices quand même, deux abords, parce que les cathéters sont quand même gros pour passer dans les artères fémorales. La prothèse est là-dedans, hein, diapo. Et donc, on va ouvrir la prothèse. Là, c'est abdominal, donc sous les artères rénales. Vous voyez les stents qui s'ouvrent, diapo. Ensuite, on va ouvrir l'autre jambage parce que c'est bifurqué pour les endoprothèses de l'aorte abdominale, diapo. Et vous allez vous retrouver avec une endoprothèse qui exclut complètement votre anévrisme. Et c'est quand même extrêmement satisfaisant. Diapo. Alors, le problème, c'est que c'est le début. Comme vous avez vu sur les dates, sur les angiographies, nous, on a été un des premiers en France à faire ça en 99. Maintenant, on est en 2008. Mais c'est quand même jeune. Alors, la première chose à dire, c'est un peu comme l'aviation. Au début, il y avait des avions en papier, puis ils faisaient un bond dans un champ, puis s'arrêtaient ou ils s'écrasaient. Maintenant, on est avec des Boeing de 300 tonnes et ça marche. Donc, on n'est pas encore au stade du Boeing, mais on n'est plus au stade de l'avion en papier. Néanmoins, si vous voulez, c'est encore de l'innovation technologique. Ça, c'est la première chose. Donc, le matériel, vous verrez, je vais vous montrer, ce n'est pas tout à fait au point. La deuxième chose, c'est qu'il y a des critères anatomiques qui sont extrêmement précis. Je vous explique tout ça, pas pour faire de vous des médecins ou des chirurgiens, mais pour que vous compreniez pourquoi, dans quelques cas, on ne peut pas le faire. Si vous avez un anévrisme qui est comme ça, avec un collet là suffisamment long sous les artères rénales et des ilias qui sont bien, eh bien, on va pouvoir vous mettre une endoprothèse, théoriquement, parce qu'on a de quoi fixer l'endoprothèse au-dessus de façon sûre. Il faut au moins 2 cm, hein, d'aorte qui ne soit pas anévrismale. On le met en bas et on peut espérer que ça marche. Par contre, si vous avez un anévrisme comme ça, qui est très étendu, un gros anévrisme qui s'arrête au ras des artères rénales, c'est impossible de mettre une endoprothèse parce qu'elle ne va pas se fixer. Donc, il y a des critères anatomiques extrêmement précis que nous, on analyse par une étude sur du scanner. C'est pour ça qu'on vous fait maintenant les scanners avec des CD-ROM. Et on a des programmes qui analysent le scanner tranche par tranche sur CD-ROM pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire. Diapo. Alors ensuite, il y a les endofuites. Alors c'est la première partie de l'aviation que je vous décrivais tout à l'heure. Alors ça peut fuir là-haut autour de la fixation proximale. Ça peut fuir à l'intérieur de l'endoprothèse qui se fragilise. Ça peut fuir dans les zones intermédiaires ici. Et ça peut fuir aussi par les artères lombaires qui refluent, puisque vous avez vu que dans la chirurgie, on les ferme par en dedans. Alors tout ça fait, et puis par en bas aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de possibilités de fuite. Il est évident que si vous avez des fuites, ben vous allez avoir un sac anévrismal qui va être sous pression, et donc vous avez un risque de rupture, malgré l'endoprothèse. Diapo. Alors voici ce genre de catastrophe, hein. Voici une endoprothèse, et puis vous voyez que vous opacifiez l'anévrisme, ce qui n'est pas un bon signe, hein. Et ce malade avait une rupture de l'endoprothèse dans le sac. Il avait une douleur abdominale, il était opéré, on a dû tout lui enlever et lui faire une chirurgie classique. Diapo. Alors là, c'est une rupture complète de l'endoprothèse, c'est cassé en deux avec une hémorragie, une rupture, hein. Lui, il a moins une chance. Diapo. Alors, donc, il y a quand même des aléas. Il faut savoir que c'est expérimental un petit peu encore. Il y a eu des études où on a tiré au sort les malades qui viennent toujours du même pays qui est la Grande-Bretagne, où la médecine est quand même beaucoup mieux structurée, en point de vue scientifique. Et on a prouvé sur un grand nombre de patients que la mise en place d'endoprothèse diminuait le risque opérateur, le risque de mortalité immédiat à 30 jours, qui passe de 4% pour la chirurgie, je vous l'ai dit, à 2,5%. Donc on diminue un petit peu le risque de rupture. Par contre, à 2 ans, c'est pareil. Ce qui veut dire que les malades qui ont échappé à la mort après la chirurgie et qui avaient des facteurs de risque, de toute façon, ils sont morts un peu plus tard. Mais ils ont gagné quand même un peu de temps. Bon. Mais à 2 ans, si vous voulez, c'est pareil. Et puis, ce qui est important, c'est la dernière ligne, c'est qu'il y a quand même 32% de réintervention quand vous faites une endoprothèse par rapport à la chirurgie, il n'y a que 8%. Et en général, c'est des réinterventions pour des éventrations, mais pas pour des complications. Vasculaire, alors que là, c'est on remet une endoprothèse, on convertit, on remet un stent, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, diapositive, quand on met une endoprothèse. Et c'est ce qui a conduit l'Agence française de sécurité sanitaire, hein, la LAFSAPS, à faire des recommandations très très strictes sur la surveillance de ces malades qui ont une endoprothèse, scanner à 6 mois et 1 an, échographie. Scanner donc chaque année et radio de l'abdomen, et ça indéfiniment, car on ne sait toujours pas si l'endoprothèse tiendra le choc. Hein, je vous rappelle que quand même, vous avez un cœur qui bat 60 fois au moins par minute, vous avez une onde, une systole à chaque fois, et vous avez une endoprothèse qui est là, si vous voulez, avec un stress mécanique extrêmement important. Donc il faut savoir que si vous mettez une endoprothèse à quelqu'un de 50 ans, s'il a une espérance de vie de 30 ans, il va avoir au moins 30 scanners au cours de la surveillance, qui correspond à une dose d'irradiation qui n'est pas négligeable. Hein. Donc c'est pour ça on restreint les endoprothèses aux malades âgés, aux malades à risque, dont l'espérance de vie n'est pas extraordinaire, parce que à 50 ans, quand on n'a pas trop de facteurs de risque, il vaut mieux avoir une chirurgie conventionnelle. Diapo. Alors, ces réflexions sont sur l'innovation, je pense qu'elles sont importantes à partager. Parce que nous, on a eu toutes ces réflexions, si vous voulez, quand on voit le film de Disneyland là, sur l'endoprothèse, on est prêt à l'acheter, c'est mieux, etc. Bon. Ceci dit, c'est quand même une certaine utopie, parce que le bien-être immédiat, la moindre complication est devenu, donc, à mon avis, une utopie des sociétés modernes. Et on a un environnement technologique, commercial et médiatique qui incontestablement s'accommode d'une certaine psychologie des objectifs à court terme. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et évidemment, le progrès chirurgical, le progrès médical en général, hein, n'échappe pas à cette mutation, dont, à mon avis, les bénéfices économiques humains sont vraiment incertains. Donc, il faut laisser aux gens qui connaissent ces techniques le choix de choisir la meilleure technique adaptée à votre cas. Hein. Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir en disant, voilà, je veux une endoprothèse. Ben non, vous aurez une endoprothèse si on peut vous mettre une endoprothèse, s'il faut vous mettre une endoprothèse, mais pas je veux une endoprothèse. Diapo. Alors, donc... En 2008, on met ces endoprothèses, on met, si vous voulez, les sujets jeunes en bon état général, c'est la chirurgie. 50, 60 ans, maintenant on dispense de 65 ans même, c'est pas très vieux. Hein. Sujets âgés, fatigués, avec des facteurs de risque importants au cours du bilan, on n'est plus en faveur d'une endoprothèse. Anévrisme de l'aorte thoracique, on met une endoprothèse, parce que là, la chirurgie a un taux de complication qui est extrêmement important. Et surtout, comme je vous l'ai dit, pour améliorer le pronostic, il faut vraiment... penser au dépistage. Oui. Alors, je terminerai, on va donner la parole à Jérôme qui va présenter un nouvel abord chirurgical qui est très très original, mais je voulais quand même terminer au nom du service, parce que moi je ne représente qu'une équipe, hein, remercier les malades qui nous ont fait confiance depuis quelques années, parce que quand on est opéré d'un aneurysme de l'aorte abdominale, on a un stress, on a une angoisse. Et si vous voulez, la confiance qu'ils nous ont accordée nous a touchés. Remercier évidemment les médecins, mais ça, on ne va pas se remercier entre nous, mais tout le personnel, les infirmières, les penseuses et les secrétaires, sans lesquels, bon, ce n'est pas possible. Hein. Les familles qui ont supporté les absences, le stress, notre caractère de chien, hein, c'est vrai, hein. Non ?
Vous parlez pour vous, je crois.
Oui, d'accord. Bon. Et puis évidemment, l'équipe ici, l'équipe de communication du CHU qui est représentée ici, et le pôle InfoSanté pour avoir donné la possibilité de faire ces présentations. Donc maintenant, je vais passer, et puis après, on aura une discussion plus soutenue, avec beaucoup de questions, j'espère, parce que c'est destiné à ça, et une présentation très très courte sur une particularité de technique qui me semble remarquable.